Verlaine, les estampes. Quel plaisir, par une après-midi un peu grise, soit de septembre, soit encore de la fin de mai, sans émotion du matin, sans projet pour le soir, lesté d'un frugal repas en flânant et dans le seul but de tuer le temps. Quel plaisir, quel véritable plaisir que de feuilleter des estampes à la porte d'un petit magasin. Orgueil et gaieté d'un quai non encore exproprié pour cause d'utilité publique. Le marchand, vénérable et méfiant, fume sa pipe sur le seuil et tourne à droite et à gauche des yeux derrière des lunettes dans l'ombre projetée par les bords cassés de son chapeau de paille ancien. À l'intérieur de la pièce, le nez dans les cartons, furettent les amateurs en quête d'une épreuve avant la lettre à eux seuls connus, et aux brocanteurs. La maîtresse de la maison va et vient, causant avec les clients familiers, et tout au fond de l'arrière-boutique qu'encombre le vieux bahut, vaisselles historiques et cages vides, leste dans l'angle d'une vieille armoire, l'apprenti de 16 ans lutine la demoiselle langoureusement mûre. Cependant, on feuillette des estampes. Il va sans dire que l'on n'a que peu d'argent en poche, et qu'à ce titre l'on ne se permet d'excursion que parmi les cartons à bas prix, les seuls d'ailleurs qu'une prudence bien avisée autorise le négociant à exposer au dehors. Certes, on ne s'attend pas à rencontrer d'eau forte bien forte, ni de taille douce bien douce, mais les bons bois, les adorables lithographies et les amours d'enluminure. Si, par exemple, cette reproduction d'un tableau grivois du XVIIIe siècle n'est pas destinée aux honneurs d'une collection fameuse, en revanche, elle réjouit l'œil par la blancheur du papier, l'odorat par le parfum âpre de l'encre récente, et le cœur, oui, le cœur, par la candeur qu'il a fallu à l'artiste pour interpréter ce maître de cette manière. Et ce portrait d'un ministre de la Restauration est-il assez instructif? Ainsi, en 1820, on portait les faux cols de cette façon, des gilets de telle autre, on se coiffait comme cela. Les yeux au ciel et la main sur le cœur semblent indiquer dans ce personnage évidemment méconnu une belle âme jointe à une science profonde de la tenue. Si la parole ne lui manquait pas, et c'est tout ce qui lui manque, assurément, le langage le plus onctueux ne tarderait pas à nous mettre au courant des intentions les plus pures. Mais l'Empire nous réclame. Il serait en effet impardonnable de ne pas regarder, avec toute l'attention qu'il mérite, les retours de l'île d'Elbe et les effets de bras derrière le dos, nombreux dans cette portion de notre histoire, à doter l'imagerie contemporaine. La clémence de l'empereur n'est pas une chose bien remarquable? L'infortunée comtesse se tord les bras, qu'elle a du reste aux trois quarts couverts par d'immenses gants, tandis que le grand homme s'apprête à jeter la lettre compromettante dans un feu qui flambe de joie, à en juger par l'intensité et la violence des hachures qui le constituent. Les grandes bottes, le petit chapeau, le manteau de galoche, le coup d'œil d'aigle et l'aide de camp attendri mais cambré ajoutent à cette scène tout intime un relief officiel qui pénètre d'un respect salutaire l'admiration due. Un mâle stoïcisme et une vue exaspérée des fortifications de Paris décore la composition intitulée Napoléon blessé au siège de Ratisbonne. « Oh, chirurgien, va sans crainte, ce pied que tu recouvres de bandelettes. Ce pied n'est pas celui d'un héros vulgaire. Vois plutôt la figure de ton empereur, au lieu d'exprimer une douleur quelconque, sourit au contraire, et de cette voix qui commande au roi semble te dire « Oh, chirurgien, va sans crainte. Honneur au courage malheureux, les pestiférés de Jaffa, les adieux de Fontainebleau. Toutes ces choses grandes défilent tour à tour, splendides et douloureuses. Mais rien pour le haut intérêt ne vaut les différentes. Napoléon à Sainte-Hélène, pâture des forts et délices des cœurs sensibles. Oh, le chemin de la croix, pire! C'est tantôt le rêve sur la falaise, façon océan, où défilent dans un nuage les chers maréchaux du vaste martyr qui crispe un poing sur sa cuisse et un gerlot dans son œil en larmes. Tantôt ses longs goudes et ses offres, Lascars écrivant les mémoires, sous la dictée d'une robe de chambre et d'un foulard de tête. Tandis qu'au dehors, le hideux Hudson Love donne une consigne atroce à un sanglant fonctionnaire. Et puis, c'est le saule. Bon, fuyons ces émotions à la fois trop fortes et revenons aux sujets humbles. Aussi bien le convoi du pauvre et le dernière hirondelle, ou modiste et poitrinaire, que le rôde à merveille ce petit voyage à travers l'histoire, la philosophie et la vie illustrée, nous laissant dans l'âme cette impression de douce mélancolie qui parachève seul le vrai bonheur par une opération réciproquement contradictoire au nescio quid amarum du célèbre hexamètre latin. 6 heures ont sonné, le soleil couchant rougit la frégate école, les ponts devant nous s'allongent insidieux, et là-bas, là-bas, va et vient la femme, la maîtresse ou la mère, impatiente déjà et sur le point d'être inquiète.